Gloire au Seigneur. Très heureux de nous retrouver ensemble, de partager la parole de Dieu. La Bible, ce matin, nous avons parlé sur la seule en qui brillait une étincelle de foi, Rahab. Et nous avons pu voir comment Jéricho, fermé, barricadé, quel était l'état d'esprit qu'il y avait dans le cœur de ses habitants. Et le Seigneur est celui qui fait grâce, parce qu'il voit celles et ceux qui, dans leur cœur, sans le connaître d'une manière toute particulière, pouvaient dire « l'Éternel sait ». Et puis, dans nos rassemblements, nous nous connaissons, mais il y a une chose dont nous ne connaissons pas, c'est l'intérieur du cœur de l'être humain. Il y eut un don spirituel, je crois que c'était une prophétie, qui entrer dans l'intimité d'une personne, mais quand je dis intimité, avec quelle délicatesse le Seigneur ne fait que d'encourager sans dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Et en parlant avec une personne, elle m'a expliqué sa détresse, ce qu'elle vivait. Et je lui ai dit, mais il y a combien de temps que vous venez de vivre cela? Elle m'a dit, il y a seulement que quelques jours. Quand elle est entrée dans la détresse de son cœur, non pas à cause d'elle-même, mais à cause d'une personne. Et je lui dis, est-ce que le don spirituel, il a été pour vous? Elle a dit, oui, ça a été pour moi. Dieu est celui qui veut entrer dans notre cœur, parler avec nous. Mais aussi, il ne divulgue point les choses qui sont cachées, notre souffrance, notre joie. Combien plus que jamais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a inspirée. La Bible nous dit constamment ce que Dieu a dit, écrit, écrit, écrit. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Et je voudrais vous conduire cet après-midi dans la roue qui tourne. La roue, elle tourne. La roue de la naissance. Mais une roue qui tourne néanmoins, nous allons faire trois lectures. La première dans le premier livre de Samuel au chapitre 22e à partir du verset 1er. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gath dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Nous allons aller dans le psaume 142e. Et à partir du verset premier. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel, je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège, jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Gloire à Dieu. Dernière lecture, l'épître de Jacques, chapitre 3e. Verset 5e. Deuxième partie. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Le cours de la vie, la roue de la naissance. J'ai donné comme titre la roue qui tourne. Et nous ferons la conclusion par la roue de la naissance. Dans notre première lecture, la Bible dit que David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. c'est-à-dire de ceux qui le poursuivent, car ils sont plus forts que moi, dit-il dans le livre des Psaumes. Le palais, c'est le confort, mais la caverne, c'est l'inconfort. Et au fond de cette caverne où il s'est réfugié, qui lui apportera le secours? Lorsque quelqu'un est prisonnier d'une caverne, on voit ceux et celles qui vont aller à sa recherche. Et avec quelle délicatesse et parfois quelle crainte, parce que leur vie aussi est engagée. Et David, en souvenir, il va écrire ce psaume 142e lorsqu'il était dans la caverne. Et il dit « prière ». Ces sujets de crainte sont maintenant devenus des sujets de prière. Je ne crois pas à l'athéisme. On ne naît pas athée. Je ne crois pas non plus à l'incrédulité. On ne naît pas incrédule. On le devient. Et donc, quel que soit l'être humain, lorsqu'il est pris dans une situation indescriptible, il commence à varier dans ses pensées et élève son cœur vers Dieu. Mais si tu existes, réponds-moi, exauce-moi. Bien sûr que c'est beaucoup d'humilité de dire mon Père, de dire mon Dieu, de dire mon Créateur. Et ces sujets de crainte sont devenus des sujets de prière. Et David rappelle à Dieu dans quelle situation il se trouve. Dieu sait de son ciel de gloire dans quelle situation l'être humain se trouve. Mais justement, la prière, c'est précisément de dire à Dieu des choses qu'il sait. Et nous prenons conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons et prenons conscience du besoin de l'intervention de Dieu en notre faveur. Notre Dieu conduit souvent ses situations, ses enfants, dans des situations où ils ressentent qu'ils ne peuvent plus compter sur eux-mêmes ou sur les autres, afin qu'ils crient à lui avec une foi humble. Un jour, je parlais avec un de nos frères qui à cette époque était CRS, et il disait, travaillant sur la route, il disait, mais j'ai vu beaucoup de personnes mourir sur mes yeux. Il dit, ils appellent deux personnes, soit maman ou soit Dieu. L'être humain va donc crier vers quelqu'un. Et je crois qu'il est important que nous crions vers lui avec une foi qui soit humble. Seigneur Jésus, n'a-t-il pas rappelé ce que le prophète Ésaïe a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Et le Seigneur avait promis de réjouir son peuple dans sa maison qui était une maison de prière. Il est important, c'est de réaliser que cette maison est une maison de prière. N'est pas écrit une maison de chant. Il n'est pas écrit non plus une maison où la prédication va être annoncée. Certes, ces choses ont leur importance de chanter, parce que dans la parole de Dieu, on voit que on chante. Les hommes chantent, les femmes chantent, les enfants chantent. Le chant est quelque chose de divin. Ça vient de la maison céleste, du cœur de Dieu. Cette maison-ci est une maison où l'on annonce la parole de Dieu, où on prie pour les malades, mais Dieu dit « ma maison sera appelée une maison de prière ». C'est-à-dire, c'est le lieu où les hommes et les femmes, les enfants, doivent trouver un lieu pour prier. Et je crois qu'il est aussi important, c'est d'écouter ce que Jésus a pu dire, « vous en avez fait une caverne de voleurs ». Et votre caverne, à cause de ceux qui vous poursuivent, d'un désert spirituel, quand il faut passer par le désert spirituel, on ne peut pas exprimer ce qu'on peut ressentir dans ce désert spirituel. Le désert, en parler, c'est une chose. Vivre dans le désert, c'est une autre, mais aussi à cause d'un foyer brisé, d'un enfant, d'une déception sentimentale, d'une crainte de l'échec, d'une déception professionnelle. Et nous pourrions ajouter, et c'est que la prière devrait produire dans notre cœur, c'est que nous venions, Seigneur, avec nos peines, avec nos problèmes, nos difficultés, lui disant les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, pas d'apparence. La Bible nous dit qu'à une période de l'histoire, l'être humain aurait une apparence de piété. Il y a des gens qui ne vivent pas leur foi dans leur religion, où il y a une certaine rupture à partir d'un certain âge. Mais leurs enfants, il faut aussi qu'ils aient telle religion. S'il leur arrivait quelque chose, s'il nous arrivait quelque chose, c'est une piété extérieure qui, en réalité, ne se vit sans force, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de notre piété, si ce n'est notre source qui est en Jésus-Christ, notre Sauveur, le Sauveur du monde? C'est lui qui est la source de notre piété. C'est lui qui nous donne non point une apparence, mais qui nous permet de vivre à l'intérieur, dans ce monde, avec la piété de Dieu, de vivre ce que Dieu veut et de vivre une vie triomphante. Caverne de voleurs, les voleurs en profitent, parce qu'en réalité, on les retrouvait dans le parvis, on les retrouvait dans la cour. C'était des religieux, les cavernes de voleurs, chasser les démons, faire tomber les gens, puissance ténébreuse. J'ai assisté lors d'un voyage en Afrique il y a un certain temps, et j'étais là parmi les malades, les hommes, les femmes, et j'étais assisté. Et je voyais quelqu'un qui a fait tomber quelqu'un. Et j'ai dit à cette personne, pas de cela. On ne fait pas tomber les gens. Moi, je crois à la puissance de Dieu. qui en réalité libère les gens. Et nous avons vu dans cette maison de prière des gens liés, possédés, qui sont tombés, qui ont été délivrés par le Seigneur. Mais les histoires de tombés par terre, qui sont tombés dans l'esprit pour avoir quelque chose, être dans un autre monde, ça n'a rien à voir avec les choses spirituelles. Et je crois qu'il est donc important, c'est de réaliser qu'il y a des cavernes de voleurs. Et il existe chez certaines personnes une sensibilité à toutes ces choses. Pourquoi ? Parce que l'on parle de Dieu, parce que l'on parle de Jésus. Mais la Bible dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. La Bible nous révèle certaines choses, mais la méconnaissance de la parole de Dieu permet à ces voleurs spirituels de venir nous séduire et de conduire les âmes à la catastrophe spirituelle. David, dans ce psaume 142e, dit « Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Les justes sont éloignés de lui, mais Dieu sait ce que David sait ce que Dieu va lui faire. Il va lui faire du bien. Et Dieu est celui qui fait du bien. Il est celui qui fait du bien. Le diable ne fera jamais de bien. C'est le mal qu'il fait. C'est dans son essence. Et quelqu'un qui est mauvais, qui est la source du mal, n'attendez pas qu'il sorte du bien. Il ne sortira que du mal. J'ai lu en son temps une théorie, c'est qu'à la fin, tout le monde sera sauvé parce que Dieu et le diable se réconcilieront. Il y a toutes sortes de théories pour croire de telles choses stupides. Le diable a été vaincu à la croix du calvaire. Et il est vaincu. Et dans la parole de Dieu, on voit tout comment Dieu a tranché à son égard. Je crois que ce qui est important, c'est que David, lui, il sait que Dieu va lui faire du bien et que les justes viendront l'entourer. Les voici, ces justes. La roue, elle tourne. Comme je le dis quelquefois, le vent, il ne souffle pas toujours de la même manière. Le vent souffle. Et c'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il nous a oubliés. Le silence de Dieu, nous avons du mal à apprécier. Mais en réalité, quand Dieu sort de son silence et qu'il rentre dans l'histoire de chaque humain, les choses changent. Les voici, ces justes, ses frères, et toute la maison l'apprirent. On voit que les relations étaient peut-être pas toujours bien comprises, mais dès qu'ils l'apprirent, ils descendirent vers lui. Ils sont venus vers lui qui était dans la caverne. Et c'est important lorsque des parents viennent autour de leur fils, bien sûr, il est déjà d'un certain âge. Mais la chaleur humaine n'est-elle pas quelque chose d'extraordinaire? La parole nous révèle aussi, bien-aimés dans la foi, que ses parents auraient pu aller chercher une sécurité auprès de Saül en se désolidarisant de David. Mais dès qu'ils l'apprirent, ils allèrent vers lui. La marche avec Jésus, c'est pas toujours facile. Quand j'écoute les camelots de l'Évangile, Avec Jésus, vous n'aurez plus aucun problème. Mais est-ce que Jésus n'a pas eu des problèmes? Est-ce que Jésus n'a pas été haï? Est-ce que Jésus n'a pas été rejeté? Est-ce que Jésus n'a pas été maltraité? Est-ce que Jésus n'a pas fini sur la croix du calvaire? Eh bien, bien aimé, quand on suit Jésus, nous avons pris un risque. Pourquoi nous avons pris un risque? Parce que nous vivons dans un monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne l'aime pas, qui fait preuve d'indifférence, de rébellion, de haine, de mépris, d'abandon envers Jésus-Christ. Et Jésus est devenu pour nous comme David l'a été pour ses frères et la maison de son père. Nous avons répondu à son appel et nous l'avons suivi dans son mépris. C'est terrible quand on connaît le mépris, quand on connaît le rejet. Je me souviens un jour, nous faisions l'implantation d'un lieu de culte en Normandie dans un village de quelques, peut-être 2000 habitants. Et il y avait un chrétien d'une autre ville qui était venu avec son papa, qui avait le zona des vieillards et qui était en train de perdre son œil. Et puis il était là dans mon bureau et il souffrait terriblement. Et je lui ai dit, monsieur, je vous annonce que Jésus guérit. Notre église connaissait un temps de visitation. Des gens faisaient jusqu'à 200 kilomètres aller-retour. Les malades étaient guéris. Les démons étaient chassés. Mais comme on croyait que j'étais guérisseur, alors je ne priais pas dans mon bureau. Et je disais aux gens, vous viendrez à la réunion et je prierai pour vous dans le nom de Jésus. Et Jésus vous guérira. Il vous fera grâce. Mais le Fils converti et le Père, devant leur insistance, priez pour moi, je souffre et je vais perdre mes yeux, pasteur. Alors parfois, le sentimentalisme nous gagne. Alors j'ai imposé les mains. Et quelques heures après, toute trace était partie, tout était redevenu normal. Alors on se réjouit quand c'est comme cela. On bénit Dieu de tout son cœur. Et je me souviens de ce garçon, un homme âgé, mais qui avait un enfant très jeune, 12-13 ans, et qui faisait de l'accordéon alors dans notre implantation d'église. Il y avait l'enfant qui était là avec son accordéon et qui jouait « Oh, voyageur, où allez-vous par ce chemin solitaire ?» Oh, ça mettait vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la réunion. Et le papa qui était là, guéri, savait que c'est des moments formidables. Et un soir, je vais le chercher. Je ne m'attendais pas absolument à ça. Et ce monsieur était armé d'une arme blanche. Et m'a dit, partez, sinon je vous tue. On se demande si on est en train de faire un rêve. On ne s'attend pas du tout à ça. Alors qu'ai-je fait quand on met quelqu'un à la porte? On ne discute pas, on part. Pour moi, je veux dire, que voulez-vous que je fasse? Je dis que l'être humain, il est incompréhensible. Des décennies après, je pense encore à cet homme. L'être humain, il est ce qu'il est. Bien-aimé dans la foi, nous avons compris que si le monde le hait, eh bien, il continue à nous haïr à cause de ce que nous lui appartenons. Mais la Bible dit qu'il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et quand tout vient à nous manquer, Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Moi, il m'émerveille, Jésus. Parce que quand vous avez l'évangile de Jean, vous avez cet enseignement qui est long, qui est extraordinaire. Et la foule qui est là, qui suite à la multiplication, plutôt guérison sur les corps, multiplication des pains, ça y est, nous avons trouvé quelqu'un qui nous guérit, quelqu'un qui nous donne à manger, alors nous allons le faire roi. Et Jésus se retire. Et il leur dit ensuite, quand il le trouve, travaillez non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, celle que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme vous donne et vous donnera. Cette nourriture spirituelle. Et quand il parle de Moïse, quand il parle de la manne, Seigneur, donne-nous ce pain. Et Jésus va leur donner ce magnifique enseignement. Mais cette foule va dire, cette parole est dure. Qui peut la comprendre? Et la foule s'est retirée. Jésus dit, se tournant vers ses disciples, et vous? Vous ne voulez pas partir? Vous ne voulez pas partir? Quand une âme, quand un homme, une femme, un couple, baptisé, quitte l'assemblée sans nous dire au revoir. Mais ça me fait mal. La nuit, j'y pense. Pourquoi sont-ils partis? Qu'ai-je fait devant Dieu? Quel mal ai-je apporté à ces gens, à ces chrétiens, avec qui nous avons prié, avec qui nous avons pleuré? Quel mal ai-je fait? Sinon, on n'est pas berger, sinon on est mercenaire. Et nous n'avons pas l'esprit du mercenaire, nous avons l'esprit du berger. Et Jésus se tourne, vous ne voulez pas vous en aller. Il révèle que l'un est un démon en plus. Vous ne voulez pas vous en aller. Il m'émerveille, Jésus. Il m'émerveille, Jésus. Il m'émerveille. Et que dit Pierre? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ. Voilà cette révélation. Voilà cette révélation. À quel autre irions-nous, Seigneur? À quel autre irions-nous? Comme je le disais ce matin, et je le redis, parce que les protestants et autres, mon évangélique, je le savais, mais c'est officiel. Ils ont retiré la Trinité. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais si la Bible n'est pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il nous reste? Quelqu'un m'a dit, la Bible, c'est un livre de fables. Mais ai-je, si je crois que la Bible est un livre de fables, je suis un mercenaire. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, je suis un mercenaire. Et quelle est l'assurance qu'il y a dans notre vie? Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, si la Bible n'est pas d'inspiration divine, vous comprenez quelle est notre certitude? Nous plongeons dans l'incertitude. Mais la Bible est la parole de Dieu. La Bible, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, elle est la parole de Dieu. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Oui, où sont les huguenots? Où est la réforme? que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mais où est-ce que le monde évangélique va aller? Où est-ce que le monde protestant va aller? Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. La Bible, elle ne s'adapte pas à la génération ou au monde, mais la Bible, elle est la parole de Dieu. Et ça, c'est important. La Bible nous dit tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassembleront auprès de leur, de lui. Des créanciers, ils avaient des créanciers. Quand je regarde ces gens, elle me dit, mal des dents, créanciers, ceci, cela, 400, vous vous rendez compte, 400, et ils ont dit à David, tu es notre chef. Tu es notre chef. Tu deviens notre chef. C'est un peu surprenant, ça. Tu deviens notre chef. C'est ce que nous avons lu. Tu deviens notre chef. Oh, vous vous rendez compte, mon fils, ma fille, nous ne l'avons pas éduqué comme cela. Et voici qu'il y a des créanciers autour d'elle, il y a des mécontents, il y a ceci, cela. Mais ces 400 vont déteindre sur elle, sur lui. Mais David ne s'est pas laissé déteindre, lui. Il est devenu leur chef. Et ces 400 sont devenus les 400 bras droits de David dans son conseil quand il fut roi. Les choses changent. Quand nous sommes venus à Jésus-Christ, bien-aimés, ben comme ces hommes, n'avions plus rien à perdre parce que nous avions tout perdu. Parce que, en réalité, dans le cours de notre vie, le cours de la naissance, nous nous sommes posés bien des questions dans les tempêtes. Vous vous souvenez de Job, cet homme tranquille, paisible, sa piété, sa droiture, ses enfants, ses filles, ses fils, gendres, belles-filles, tout ce monde, renommée extérieure, renommée intérieure. Il était content, Job. Et tout à coup, il n'assiste point dans une conversation entre Dieu et Satan. Il ne sait ce qui lui arrive. La roue tourne. Et vous avez remarqué que Job, quand il va ouvrir la bouche, c'est pour maudire le jour de sa naissance. Mais en réalité, il va remonter, non pas au jour où il sort du sein de sa maman, mais il va remonter jusqu'à la nuit de la procréation, de la fécondation. Il remonte loin. Et nous sommes dans une génération où on remonte loin. On remonte loin jusqu'à la nuit de la fécondation. On remonte loin. On recherche ses origines. On recherche ceci. On recherche tout cela. Et c'est là où cette confrontation avec nous, l'histoire de notre vie, parce qu'au cours de notre naissance, mais à fur et à mesure que nous avons grandi, les épreuves, les difficultés, la route de notre naissance, toutes les questions que les uns les autres peuvent se poser, nous avons pu nous les poser. Bien-aimés dans la foi, Jacques dit qu'il regarde dans un miroir son visage naturel. le visage de sa naissance, l'état naturel de son âme. De son âme, il y a quelque chose de spirituel. Comme parfois certains d'un animal, « Ah, il lui manque que la parole, il est intelligent !» Mais s'il avait la parole, il ne serait pas singe. Voilà, ce n'est pas nos frères. Ce n'est pas nos cousins. Ah oui, non? Ah oui! Oh, ce chien est intelligent! Bah oui! C'est dommage qu'il n'ait pas la parole, mais s'il avait la parole, il ne serait pas chien. Ah oui! Il ne serait pas chien! Et bien aimé, le miroir de la parole de Dieu, notre âme, ce qui est spirituel, Dieu a choisi les choses folles du monde. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Dieu a choisi les choses viles du monde. Dieu a choisi les choses qu'on méprise, des choses qui ne sont point. Voilà ce que Dieu a choisi. C'est ce que Dieu a choisi. Il n'a fait exception de personne. Et Paul, lui, il est allé à Corinthe. Non point avec la sagesse des hommes, non point avec le langage de la parole. J'écoutais, quand il venait à la télévision, un homme de la magistrature, et quand je l'écoutais, il était très agréable. Il avait le langage. Puis un jour, lui-même a dit qu'il avait une école de langage. Paul à Corinthe, il n'avait pas été à l'école du langage, lui. À Corinthe, il y avait l'école du langage. Savoir comment s'exprimer, être un orateur. Quand Paul arrive à Corinthe, il arrive avec crainte, avec tremblement. Mais il sait ce qu'il y a dans son cœur. Quand il voit tous ces gens à terre, il dit qu'il n'y a que la prédication de la croix qui peut les relever. Il n'y a que ça qui peut les relever, la prédication de la croix. C'est une folie, c'est une idiotie, nous dit la Bible. Parce que le mot folie veut dire idiotie. La prédication de la croix est une idiotie pour eux, les Corinthiens. Et pour nous aussi au XXIe siècle. Mais elle a la puissance de Dieu. Parce que Christ est mort. Christ est ressuscité d'entre les morts. Et il peut venir nous aider. David est parti avec tout ce monde. Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous. Jusqu'à ce que Dieu sache ce qu'il fait de moi. Et la Bible nous dit, le prophète Gad, le ministère prophétique, ne reste pas dans ta forteresse. Va-t'en et entre dans le pays de Juda, et David s'en alla. Oui, tout à coup, il y a le ministère prophétique. Abathiar, le père de la subabondance, il y a la prêtrise. La roue qui tourne. David se retrouve plus seul. Et dans notre roue de la naissance, la roue, elle tourne. Et elle tourne. Et elle tourne avec rapidité. Mais nous pouvons avoir Dieu comme Père. Nous pouvons avoir Jésus-Christ, le Sauveur. Nous pouvons avoir une Église remplie du Saint-Esprit. Remplie de la puissance de l'Esprit de Dieu. Des hommes et des femmes régénérés qui ne font pas une église en or. Nous sommes des pécheurs rachetés par grâce. Mais ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de Christ. Nous ne sommes plus seuls. Nous nous réjouissons et nous pouvons dire ensemble comme nous l'avons chanté, non jamais seul. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit Saint, Jésus baptise par immersion, Jésus nous donne en abondance. Nous avons avec nous le Saint-Esprit. Nous avons notre grand prêtre, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous ne sommes plus seuls. Nous avons Christ avec nous. Nous pouvons sortir de nos cavernes. Sortez de vos cavernes. Sortez de vos cavernes. Sortez de vos cavernes. Sortez de vos cavernes cet après-midi. Jeunes gens, jeunes filles, sortez de vos cavernes. Sortons de nos cavernes. Nos ennemis sont plus forts que moi, disait David. Mais Dieu était plus fort que ses ennemis. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne sa grâce et sa bénédiction dans le nom de Jésus. La roue qui tourne, elle peut tourner d'une autre manière. Nous prions Dieu maintenant. Lord spring its mind, the Lord. Hallelujah. Gloire à l'agneau de Dieu. Prince is called, prince I very much just called. Your reign is very much just called. On pourrait se lever. Hallelujah. Hallelujah. On va